mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attaque.
Et nous recevrons Agnès Rousseau, journaliste à Basta, pour nous parler du livre noir des banques. Mais pour commencer, bien sûr, un petit peu d'actualité avec Jean-Marc, qui va nous faire part d'un grand coup de gueule sur l'actualité.
Alors l'actualité, bien sûr, vous l'avez noté, on ne peut pas y échapper. Les médias d'aujourd'hui, télévision en tête, se délectent des non-événements et transforment des vrais événements en cirque médiatique qui hésite entre le lamentable et le débile, l'ignoble et l'absurde, l'inutile et le honteux. L'info doit être continue et apporter sans cesse un zeste de nouveauté, quoi qu'il en coûte, dire 20, 30, 40 fois la même chose, ajouter des éléments sans aucun intérêt, des témoignages idiots de gens qui auraient pu voir ou qui auraient pu avoir quelque chose à dire. Avec l'affaire Mera et les attentats de janvier dernier, le paroxysme du mauvais goût et du débile ont été atteints avec le dialogue par téléphone entre journalistes et bourreaux du supermarché de la Porte de Vincennes. Mais, the show must go on, l'info continue poursuit sa course folle vers d'autres sujets, d'autres images, croustillantes si possible, comme les exécutions monstrueuses de l'EI, qu'on montre 10 fois dans la journée tout en faisant semblant de s'interroger sur la déontologie et la nécessité de faire de la pub aux ordures assassines. Ce mois de mars nous offre une conjonction rare, un peu comme les éclipses, la rencontre entre l'info de merde et la télépoubelle. Avec un accident mortel de people, oui, on ne dit plus des personnalités, on dit des people, c'est beaucoup mieux, ça fait partie de la télépoubelle, dans le cadre d'une émission de télé-réalité. Le système médiatique s'emballe, dégouline d'émotions et de commentaires larmoyants sur ces pauvres people, fauchés en pleine gloire, certains c'est des gloires très très lointaines, même Flamby et notre petit valse national se sentent obligés de commenter tellement c'est un événement majeur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de la daube de première qualité. Alors on peut dire... qu'on en a marre, moi j'en ai vraiment marre de toutes ces stupidités. Non, le crash de 2 hélicoptères dans une émission de télé-réalité débile à l'autre bout du monde n'est pas un événement, et tout juste un accident banal qui ne nécessite aucun traitement médiatique particulier. Et que on nous emmerde, passez-moi l'expression, pendant 10-15 minutes de journaux télévisés ou radio avec ce non-événement, me court sur le haricot. Alors non, il n'y a pas de quoi verser des larmes, sauf peut-être sur les techniciens, parce qu'eux, ils étaient là pour faire leur boulot, ils avaient peut-être pas le choix. Sur des people en mal de notoriété qui sont morts en se prostituant dans la télé-réalité, j'ai pas envie de pleurer sur des prostituées de ce type. Non, on ne peut pas utiliser l'émotion de la même façon, quels que soient les événements et les victimes. Et je trouve qu'il est plus que déplacé d'avoir les mêmes larmes devant le supermarché Cachère ou devant chez Charlie, et ensuite pour cet accident banal. Alors non, les cadavres de la télé-réalité n'ont pas la même odeur que ceux de janvier ou que les victimes de l'EI, et je vomis du BFM partout les pores. Alors quand même, pour finir sur une note un petit peu drôle, une citation entendue sur France Info, qui fait bien partie de ce cirque médiatique, le très célèbre Philippe Candeloro, qui est un grand orateur et un grand penseur, pour ceux qui l'ont déjà entendu, était interrogé sur France Info, évidemment, puisqu'il est l'un des rescapés. Et il a réussi à sortir des choses impressionnantes, une liste de lieux communs qui doit être dans le Guinness Book des records. Arriver à sortir autant de lieux communs en une minute, c'est difficile. Et il a quand même réussi à parler de la minute de silence. Ils ont fait une minute de silence, les survivants. C'est très très émouvant, une minute de silence. Et d'ajouter, parce que Candeloro est vraiment un philosophe, cette minute de silence nous a permis d'exprimer et de dire tout ce qu'on avait à dire. Bravo la télé, bravo la radio. Et alors, deuxième chose fabuleuse, toujours sur France Info, ils ont réussi à interroger un ouvrier argentin, et quelque chose de très intéressant, l'ouvrier argentin a entendu un bruit et s'est retourné. Ça, c'est de la radio.
Et tu as participé à ce brouillage en nous en faisant part, toi aussi. Mais tu nous feras aussi part de quelque chose qu'on entend moins, c'est le peuple kurde, pour lequel tu as quelque chose à nous raconter. là-bas, au coin fond de l'Irak et de la Turquie.
Alors, il se passe beaucoup de choses depuis des mois, donc aux confins du Moyen-Orient et du Kurdistan, avec la situation des Kurdes qui ne cesse d'évoluer à cause de l'embrasement syrien et du développement de l'EI, l'État islamique au Levant, qui a fait beaucoup de dégâts, mais qui a aussi permis aux Kurdes de redresser la tête assez curieusement et assez paradoxalement. Et on assiste à un jeu de billard diplomatique, militaire et politique absolument incroyable autour de la question kurde. La question kurde qui a donc ensanglanté la Turquie pendant des décennies et des décennies, avec des gouvernements turcs qui ont tous, au XXe siècle, voulu pilonner les Kurdes, sauf un. Il y a un seul gouvernement qui n'a pas voulu le faire. Et aujourd'hui, les Kurdes se retrouvent dans une situation qui est complètement retournée. Après avoir été lâchés ou ignorés par le monde entier, on se rend compte que les Kurdes sont des gens courageux, ce sont les seuls à se battre sur le terrain contre l'État islamique. Et pendant ce temps-là, la Turquie laisse passer les islamistes qui vont se battre. Et pendant ce temps-là, la Turquie empêche les Kurdes de Turquie d'aller se battre aux côtés des Kurdes de Syrie. Donc tout ça, on le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est Öcalan. Öcalan, c'est le vieux leader des Kurdes de Turquie et leader du PKK, le Parti communiste du Kurdistan, donc marxiste-léniniste, qui pendant très longtemps a été considéré comme un terroriste par les bonnes démocraties occidentales, notamment par des gens sympathiques comme Madeleine Albright aux États-Unis ou des gens comme donc John Major en Angleterre, qui tous l'avaient inscrit et laissé sur les listes de terroristes, même après son arrestation plus que controversée en 1999. Et l'enfermer, puisque ça fait quand même maintenant plus de 15 ans qu'il est enfermé et qu'il ne peut pratiquement voir personne, a quand même quelques contacts avec l'extérieur et peut parler. Depuis quelque temps, ça fait partie d'une sorte d'assouplissement de son régime carcéral. Et là, il fait très fort. À la place d'appeler au soulèvement, ce qui aurait été facile, puisque les Kurdes étaient chauffés à blanc en Turquie par la fermeture de la frontière par Erdogan, eh bien, il a eu l'intelligence de dire « Non, on va pas se révolter. Au contraire, on va calmer le jeu. » On va calmer le jeu et à travers cela, il prend tout le monde à contre-pied. Tout le monde attendait une insurrection kurde et en fait, les Kurdes se calment. Les Kurdes sont super disciplinés, ils suivent Öcalan et en échange, Öcalan est en train d'obtenir, semble-t-il, une super autonomie dont il ne pouvait pas rêver il y a 2 ans pour le Kurdistan turc qui deviendrait de ce fait presque aussi autonome que le Kurdistan syrien. Donc bravo l'artiste, puisque sans le verser de sang, on arrive à une situation donc de retournement politique, ce qui fait un peu penser à l'activité de Nelson Mandela lorsqu'il était en prison, qui depuis sa prison avait réussi à donc concentrer ses troupes, à les empêcher de sombrer dans l'ultra-violence, et qui a décroché non seulement la paix, mais le pouvoir.
On sent que tu es proche du peuple kurde, Jean-Marc. Alors nous recevons aujourd'hui Agnès Rousseau qui est journaliste et dans le cadre de d'un livre auquel elle a participé, le livre Noir des banques. Mais auparavant, on peut peut-être parler un petit peu de ton journal qui s'appelle donc Basta et qui est un journal militant mais qui est lu et j'espère lu par un grand nombre de gens qui veulent s'informer et de s'informer de thèmes comme celui-ci, Livre Noir des banques, qui touche n'importe qui sans forcément avoir un esprit militant avant même de ouvrir le livre.
Alors Basta, c'est un site, un média indépendant en ligne qui traite de questions sociales, environnementales et économiques. On publie des enquêtes et des reportages. On est une équipe de 6 journalistes qui fait fonctionner ce site au quotidien. Et puis on a lancé en 2013 un observatoire des multinationales pour faire des enquêtes sur les impacts sociaux et environnementaux des multinationales françaises. Et puis on est lu par 700 000 personnes chaque mois, donc voilà. Une petite audience qui permet d'aller un peu plus loin, de toucher effectivement des gens qui sont déjà sensibilisés à ces questions et puis plus largement le grand public, sachant que tous nos articles aussi sont en accès libre pour chacun. Donc c'est www.bastamac.net, le site.
Et sachant que c'est un travail de fond que d'autres qui se réclament journalistes ne font pas forcément, et que c'est un travail qui est quasi sociologique ou économique à chaque fois.
On essaie de faire un travail d'investigation, d'aller un peu au fond des choses, et puis de et c'est effectivement traiter des sujets qui ne sont pas forcément traités par d'autres médias traditionnels.
Et alors, pour parler mieux encore de ce journal, écoutons la compagnie Jolimum chanter « Ya Basta ».
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
On te prend, on t'essore, on te jette, on te vire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut sourire.
Tu travailles pour des miettes, en plus il faut que l'on reste là sans rien dire. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, ya basta, ya basta, basta, ya. Ya basta, basta.
106.3, Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes d'Attaque et des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous recevons Agnès Rousseau, journaliste au journal Pasta, et qui vient nous parler du livre noir des banques auquel elle a collaboré. C'est un ouvrage très intéressant qui, contrairement à beaucoup d'autres d'économie, est tout à fait lisible. Il y a une vraie volonté pédagogique dans cet ouvrage, avec pas mal de chiffres qui font parfois bien peur. Par exemple, quelque chose qui peut peut-être nous faire un peu rentrer, nous, clients quelconques d'une banque, dans ce débat, c'est finalement une question qu'on se pose peut-être pas, mais ça coûte combien pour un client, une banque, à peu près?
Alors c'est vrai que la banque de détail, c'est-à-dire la gestion de votre compte au quotidien, certains évaluent ça à peu près à 100 euros par an, c'est peut-être un peu plus, même 150, 200 euros par an. Et ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, il y a un manque de transparence totale sur ces questions-là. Par exemple, les tarifs, il y a des brochures, les banques éditent des brochures qui sont assez incompréhensibles. Alors elles essayent de faire des efforts pédagogiques, comme elles le disent, mais des fois, il y a jusqu'à 300 tarifs différents dans une brochure avec des trucs, des formulations absolument incompréhensibles pour le client qui a un peu l'impression de se faire avoir. Et puis ce qui est un peu problématique aussi, c'est que il y a des conseillers qui sont censés qui ont un rôle de conseil, mais qui sont aussi des commerciaux et qui ont par exemple qui vont toucher des commissions sur le fait qu'ils vont vous vendre des services bancaires. Et on se retrouve dans une situation où ils nous cherchent par exemple à nous vendre des packages souvent inutiles. Par exemple, à la Société Générale, il y a un package de 10 services qui est vendu, et dans ce package de 10 services, l'UFC que choisit a noté qu'il y en avait deux services inutiles, trois peu utiles et cinq qui étaient plus avantageux si on les achetait individuellement. Donc voilà, donc un petit exemple de ce que peut être l'arnaque au quotidien dans les banques de détail, et qui ont en plus un public complètement captif, puisque quand on est salarié, on est obligé, quand on gagne plus de 1500 euros par mois, on est obligé d'avoir un compte bancaire. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des salariés en France qui sont obligés d'avoir un compte bancaire. Et puis changer de banque, c'est une vraie galère. Et il y a à peu près 15-20% de gens qui disent qu'ils veulent changer de banque chaque année. Il y en a que 3 qui réussissent à le faire. Donc les banques, elles ont absolument pas intérêt à jouer sur la concurrence et à baisser leurs tarifs, puisque au final, elles ont un public captif devant elles.
Mais bon, avec le package de la Société Générale, il y a une photo dédicacée de Kerviel quand même.
Alors d'autant plus que toutes ces banques qui nous font payer différents services ont le droit d'utiliser tout l'argent qu'on peut leur amener pour faire un placement sur les marchés. Justement, une des questions un peu centrales dans le livre Noir des banques, c'est finalement comment ça fonctionne, cette notion de crédit par rapport au marché, et est-ce que les banques aujourd'hui sont encore vraiment celles qui financent l'économie réelle, qui financent les ménages, qui financent les entreprises ou les PME?
Alors c'est un des points qu'on a voulu justement montrer dans ce livre, c'est le décalage total qu'il y a entre les banques aujourd'hui et l'économie réelle. Alors on sait déjà que la crise financière, elle a entraîné la crise économique derrière, donc il y a déjà des liens, des conséquences de la finance sur l'économie, mais c'est pas forcément des conséquences positives. Donc c'est une déconnexion qu'on a noté. Par exemple, en 10 ans, le PIB de l'Union européenne, le PIB a augmenté de 12%. Et les actifs des banques, eux, ils ont augmenté de 90%. Ça dit bien à quel point c'est complètement décalé. Et puis, on a des banques qui sont devenues des mastodontes. Par exemple, BNP Paribas, qui a un bilan bancaire de 2000 milliards d'euros. Donc, c'est l'équivalent du PIB de la France. Donc, ce qui est produit en France par 3 millions d'entreprises et 66 millions de contribuables, de personnes, BNP a l'équivalent dans son bilan bancaire. Et ces mastodontes, en plus, ont une certaine fragilité, et c'est aussi un des points qu'on a voulu souligner. Et on a voulu évaluer aussi le coût de ces banques pour la société, et montrer à quel point elles étaient en décalage total par rapport à notre économie.
Et donc, dans ce décalage, quand on voit le mastodonte que sont ces banques, j'ai pu voir dans l'ouvrage que certaines d'entre elles avaient été, pour les banques françaises, parmi des banques qui sont de moins en moins sûres. Hein, j'ai vu que, par exemple, les quatre grandes banques françaises de marché bien connues ont été sortis des banques stables et fiables par je crois.
Alors c'est un peu le discours des banques aujourd'hui, des banques françaises, de dire elles n'ont pas pris de risques excessifs pendant la crise, qu'elles n'ont rien coûté aux contribuables, que leur modèle est super sûr et qu'il n'y a aucun risque par rapport à ça. La preuve, c'est qu'elles ont résisté à la crise. Sauf que ce qu'elles oublient de dire déjà, c'est que c'est pas vrai. Enfin, il y a eu une énorme somme d'argent qui a été mobilisée, 4 500 milliards d'euros qui a été mobilisé au moment de la crise pour justement éviter que toutes ces banques s'écroulent comme un vulgaire château de cartes. Et puis aujourd'hui, elles ont encore une très grande fragilité. Dans le livre, on parle de colosses au pied d'argile ou même de bombes à retardement. Dans le sens où aujourd'hui, il y a une très très grande concentration du secteur bancaire français. Donc il y a 5 banques qui représentent 80% du secteur bancaire. Et on a 4 grandes banques en France, 4 banques qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire des banques qui, si elles s'écroulent, ça fait boule de neige et ça provoque des faillites en chaîne. Ces 4 grandes banques systémiques, c'est BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et donc ces banques, elles sont dangereuses pour la stabilité du système bancaire. Et il y en a 30 au niveau mondial. Qui sont des banques too big to fail, c'est-à-dire qu'on les laissera, les États pourront pas les laisser tomber parce qu'elles sont vraiment trop énormes. Et sur ces 30, donc il y en a 4 françaises. Donc c'est la plus grande concentration de banques au monde dans un pays. Donc ça veut dire que le système bancaire français, finalement, il est le plus vulnérable potentiellement, donc un des plus dangereux au monde. Et puis il y a des chercheurs, notamment des chercheurs de Lausanne et puis de New York, dont un prix Nobel, Robert Engel, qui ont élaboré un indicateur qui s'appelle le S-Risk, qui évalue le risque justement de ces banques, savoir si il y a un risque ou pas. Et en septembre 2014, c'était la France qui avait le S-Risk le plus élevé. C'était 2 fois supérieur à l'Allemagne. Et sur les 10 banques européennes qui ont le risque le plus élevé, on retrouve encore les 4 françaises. Donc malgré les discours des banques qui disent non, on est ultra solide, etc., il y a quand même des indicateurs qui font dire le contraire. Et donc on a envie de pas forcément croire sur parole ces banques qui ont aussi des intérêts à défendre par rapport à ça.
Mais tu dis que l'expression anglo-saxonne trop gros pour tomber, mais finalement si on imagine que toutes les banques font faillite, qu'est-ce que ça change pour nous ?
Bah, ça change beaucoup parce qu'on s'est rendu compte justement pendant la crise financière de 2008 que ça avait des conséquences énormes sur l'économie et que ça provoquait des séismes. La crise financière au départ, effectivement, elle concernait que des banques et puis petit à petit, ça a provoqué une crise au niveau de la consommation, au niveau des dépenses publiques, au niveau de la dette publique. On s'est retrouvé notamment avec 8 millions de chômeurs en plus en Europe, c'est-à-dire le taux de chômage, il est passé de 7 à 11% à cette période-là. La dette publique, elle a augmenté de 60 à 93% en quelques années au moment de la crise. Donc il y a eu des conséquences absolument faramineuses sur l'économie.
Oui, mais peut-être parce qu'on les a empêchés de tomber.
Je ne suis pas sûre. Je pense que ça aurait été pire si elles étaient tombées au final, mais bon.
Alors justement, si elles sont tombées, c'est parce que leur fonctionnement, on voit dans le livre une certaine déconnexion avec l'économie réelle. Finalement, la part de ce que va mettre une entreprise ou les ménages dans les banques est faible par rapport à leur richesse. Et le fonctionnement, finalement, du crédit, il est plus le marché que le monde réel.
Alors, c'est vrai que la déconnexion entre économie réelle et marché, elle est assez flagrante dans le sens où, sur les actifs bancaires, en fait, il y a dans l'actif des banques, il y a 10% seulement qui sert aux prêts aux entreprises. Il y a 15% qui sert à des prêts aux ménages et 75% restants, c'est-à-dire les 3/4 des actifs bancaires, ils se retrouvent en placement sur les marchés financiers, le plus souvent sans rapport direct, justement, avec des investissements réellement productifs dans l'économie réelle. Et un autre chiffre qui est assez frappant, c'est que il y a des produits dérivés qui sont créés, donc qui sont des produits spéculatifs. Au départ, c'était des assurances et puis c'est devenu des produits hautement spéculatifs. Et ces transactions sur les produits dérivés, il n'y en a que 7% qui sont entre des banques et des entreprises. Le reste, les 93% des transactions, c'est un jeu entre financiers. Donc on se retrouve dans une espèce de partie de poker mondiale dans lequel finalement l'économie réelle est une toute petite part de concernée. Et pour autant, on pourrait se dire les bourses, elles sont devenues des grands casinos, il y a des parties de poker qui se jouent là. Et on pourrait se dire, à la limite, n'importe quoi. On les laisse jouer leur partie de poker et puis nous, on fait des choses un peu productives dans notre coin. Sauf que du coup, sur ces marchés financiers, ben, chaque jour, chaque heure, même chaque millionième de seconde se joue le prix du pain, le prix des métaux, celui de l'énergie, l'avenir de nos retraites. Voilà, c'est la production alimentaire aussi qui est très, très contrainte par ces échanges-là, puisque c'est en 2008, ces échanges financiers ont provoqué, par exemple, une hausse énorme des tarifs des matières premières alimentaires avec des émeutes de la faim, etc. Donc il y a des conséquences absolument faramineuses sur l'économie réelle, et en même temps c'est une finance qui est complètement dérégulée sur laquelle on a plus beaucoup prise quoi.
Alors je pourrais peut-être partir sur cet exemple de l'émeute de la faim, parce que les gens n'ont peut-être pas forcément entendu parler de ça. C'est quand même un bon exemple pour imaginer qu'une décision bancaire peut avoir un impact sur la faim dans le monde.
Alors en fait c'est la Banque mondiale qui le dit, donc c'est pas l'attaque, c'est que en fait ce qui a provoqué des émeutes de la faim en 2008, c'est la hausse des prix alimentaires, et ça a été en lien direct avec le fait qu'il y a des fonds d'investissement qui ont été faits sur les aliments. Et on s'est retrouvé avec une hausse de la tonne du blé, par exemple, qui est passée de 100 euros à 300 euros. Donc des gens dans des pays, notamment du Sud, qui n'avaient plus les moyens d'acheter. Et c'est lié complètement au fait qu'aujourd'hui, les matières premières, elles sont la propriété, finalement, de fonds financiers. Avant, c'était les trois quarts des matières premières étaient détenues par des négociants de matières premières. Aujourd'hui, les trois quarts des matières premières agricoles, elles sont détenues par des spéculateurs qui n'ont pas du tout de gestion des stocks en réel, mais qui ont une gestion des finances. Et résultat, aujourd'hui, sur le marché mondial, chaque année s'échange 8 fois la production mondiale de blé, 16 fois la production de maïs ou 43 fois la production de soja. Donc, on se retrouve avec des échanges qui, à chaque fois, effectivement, accumulent forcément une plus-value, puisque les gens ne le feraient pas s'il n'y avait pas des profits. Donc, on va échanger 40 fois la même production avec des gens qui vont spéculer à la hausse à chaque fois, et puis avec les conséquences des hausses faramineuses de prix derrière. Donc ça, c'est vraiment une conséquence concrète de la spéculation financière et du fait que il y a un manque de régulation assez flagrant. Et voilà, quand il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de malnutrition dans le monde, c'est un crime contre l'humanité de laisser faire ce genre de choses.
D'autant qu'on a un peu l'impression que toute cette masse d'argent, c'est presque des faux billets qui s'échangent. Je sais pas si... bon. On va écouter Sanseverino, les faux talbins.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence par pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec des journalistes d'attaque, des journalistes du PIAF et des membres d'attaque. Décidément, j'y tiens ce soir.
Et ce soir, un journaliste du journal Basta, Agnès Rousseau, avec qui nous parlons du livre noir des banques. Après avoir un peu dressé le portrait de toutes ces banques qui sont autour de nous, au niveau français comme à niveau international, et de tout ce que la spéculation qu'elle dégage peut avoir comme conséquence dans notre économie, on peut maintenant essayer de comprendre pourquoi finalement ces banques sont fortement interdépendantes ? Pourquoi est-ce que ces gros mastodontes existent ? Elles ont des liens si forts que ça ?
Bah en fait, les banques, les grosses banques ont une tendance à s'agglomérer effectivement, parce que au départ, il y avait surtout des banques d'affaires d'un côté et des banques de détail de l'autre. Et puis justement, ça avait été mis en place notamment au moment de la crise de 1929, justement de séparer ces deux activités pour éviter que des banques d'affaires aillent spéculer sur les marchés justement avec l'épargne des épargnants. Voilà. Et donc du coup, on avait séparé ces activités. Et à partir des années 90, dans l'administration Bill Clinton et puis en France, on a enlevé cette distinction et on s'est retrouvé avec des banques qui ont fusionné les unes avec les autres, par exemple BNP qui a fusionné avec Paribas, etc. Et puis ça a construit petit à petit ces gros mastodontes qu'on a aujourd'hui en France. Et c'est vrai que les gens, ils n'imaginent pas forcément qui y a derrière leur banque. Ils n'imaginent pas par exemple que le Crédit Lyonnais, c'est une filiale du Crédit Agricole, que le Crédit du Nord, c'est une filiale de Société Générale, que CTLM ou Cofinoga, ce sont des filiales de BNP Paribas. Donc ça, c'est des choses qui sont assez peu connues. Finalement, on connaît la marque, là, on connaît sa banque, et bien on connaît pas finalement le gros groupe dans laquelle elle s'inscrit.
Et surtout qu'au-dessus de ces banques, il y a des compagnies d'assurance internationales qui se mettent à garantir les grands crédits et qui font finalement toutes ces banques ont naturellement obligation de s'appuyer les unes sur les autres pour arriver à fonctionner.
Mais en fait, c'est ça ce qui est très dangereux aussi. C'est déjà qu'elles sont énormes, donc si elles s'écroulent, c'est à la catastrophe. Et puis, elles sont super interconnectées. Donc, c'est-à-dire, s'il y en a une qui a un problème, c'est ce qui s'est passé en 2008, ça crée une onde de choc sur tout le système bancaire. Et ça, justement, c'est assez malsain, puisqu'en plus, les tests de résistance qui ont été passés au niveau européen, on nous dit « Ah, mais les banques sont solides, les banques françaises, elles sont super solides, etc. » Sauf qu'ils ont obligé, ils ont oublié dans ces tests de résistance, justement, de tester l'interconnexion. C'est-à-dire, c'était pas un critère. Donc, forcément, alors qu'on sait que dans la réalité, c'est quelque chose d'assez majeur et qui est assez problématique. Et effectivement, il y a plein de conséquences derrière, puisque l'assureur AIG qui a fait faillite en 2008 aux États-Unis, il avait des connexions avec BNP Paribas, avec Société Générale, avec Crédit Agricole, et le contribuable américain s'est retrouvé à devoir verser de l'argent à ces banques françaises-là, justement, pour leur rembourser l'argent que AIG ne pouvait pas leur rembourser. Et donc, du coup, il y a des connexions et il y a des conséquences très, très concrètes. Quand il y a une faillite, voilà, c'est le contribuable souvent qui met la main à la poche et pas forcément le contribuable du pays. Enfin voilà, c'est le contribuable américain là qui a financé les banques françaises dans ce cas-là.
Donc on évoquait la non-différence entre la banque qu'on croit connaître pour chaque client et puis de l'autre côté les banques d'affaires qui ont des activités de marché, parce que finalement chaque euro que contient une banque va être vite placé sur le système du marché. Alors comment ça se passe concrètement? Ils font des placements de bons pères de famille ou autre chose?
Alors déjà, c'est vrai qu'il y a de la spéculation pour leurs clients. Ils proposent à des clients de spéculer, de faire des profits avec des placements des fois un peu hasardeux. Et puis, ils peuvent aussi spéculer sur fonds propres, c'est-à-dire avec leurs propres fonds. Quelque chose qui est assez fort aussi, c'est que quand ils font des crédits aux particuliers, ils n'ont pas trop intérêt de garder ça au sein de la banque, parce que du coup, c'est pas avantageux pour eux forcément. Donc du coup, ils vont transformer un crédit qu'ils ont fait à par exemple un crédit immobilier qu'ils ont fait à un particulier, ils vont le transformer ça s'appelle la titrisation, donc ils vont le transformer en produit financier et ils vont balancer ça sur les marchés financiers et puis ça va partir justement dans une espèce de nébuleuse assez opaque et finalement c'est plus la banque qui a accompagné un client, qui a mesuré le risque de savoir est-ce que le client va rembourser ou pas. Cette banque-là qui connaît son client, bah, elle est plus trop en lien justement avec le crédit qui lui va partir. Alors du coup, il y a des créances pourries. On fait des crédits hasardeux et puis on les balance sur le marché et puis on met tout ça. On fait des petits paquets. On prend un petit peu de produits alimentaires, un petit peu de crédit, un petit peu de tout et puis on fait des paquets qu'on refile sur les marchés avec le risque effectivement, ce qui a provoqué en 2008 la crise des subprimes, c'est-à-dire il y avait des crédits pourris et que voilà plus personne n'en voulait, s'est refilé la patate chaude et puis ça a fait des hauts et des bas sur les fluctuations sur les marchés financiers et puis le crash boursier et financier derrière.
Donc là, on est arrivé à la crise en 2008 avec toutes ces raisons, on vient bien de le comprendre, avec tous ces liens forts entre les banques, avec le taille de mastodonte et puis finalement on va dire que le système tel qu'il a été construit s'écroule de lui-même en 2008. Et là, on pourrait s'imaginer qu'avec une taille pareille, ben, les banques peuvent se sauver toutes seules, non? C'est pas ce qui s'est produit. Hein. J'ai raté quelque chose?
Bah non, justement, ouais, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que malgré leur taille, ou justement parce qu'elles sont énormes, l'État est venu à leur secours, à mobiliser 4 500 milliards de dollars pour éviter que ça s'écroule. Donc c'est assez incroyable. Alors après, effectivement, ces 4 500 milliards, c'est 37% du PIB européen. Donc les banques n'ont pas utilisé cette somme-là. Donc ça a été soit des garanties, soit des prêts qui ont été remboursés. Mais ce qu'on a quand même évalué dans le livre noir des banques, c'est le coût du sauvetage des banques et on l'a évalué à peu près à 25 milliards. Donc on peut dire quand même que le sauvetage des banques françaises a coûté à peu près 25 milliards malgré justement le fait qu'elles disent bah non, on a rien coûté. Enfin, elles arrivent même à raconter les banques que finalement la crise bancaire ça a fait gagner de l'argent à l'État français. Il faut quand même être un peu culotté pour en arriver à dire des choses pareilles parce que quand même il y a eu la faillite notamment de la la banque Dexia, qui a coûté quand même 6 milliards à l'État français. Donc c'est pas rien, et c'est encore les contribuables, c'est encore nous qui avons mis notre argent dans ce puissant fonds.
Non mais là,
je me trompe, ou le dirigeant de Dexia est celui qui dirige la caisse d'épargne maintenant?
Alors je sais plus trop où ils sont partis les uns les autres, mais en tout cas quand il y a des erreurs, quand il y a des fraudes, quand il y a des abus, quand il y a des scandales, quoi qu'il se passe, de toute façon ils ont le droit à des parachutes dorés, et ça ne nuit en rien à leur carrière et à leur futur emploi. Ça, c'est une constante en général dans ce secteur bancaire.
Non mais vous savez, chez les gens riches, l'argent, ça peut être rigolo, hein.
Money, money, money.
Et justement, les gens riches, bah, on en connaît en Suisse, on en connaît au Luxembourg, et ils sont dans des petits paradis, non pas, Boris ?
Tout à fait, dans les paradis fiscaux, on va rester dans l'économie. En novembre, était rendue publique une enquête internationale en collaboration avec une quarantaine de journaux, menée par l'ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, installé à Washington. Cet organisme, à but non lucratif, s'est donné pour mission de révéler au grand public ce que certains aimeraient cacher. Le tout en faisant collaborer près de 180 journalistes à travers le monde. Cette enquête a relevé le contenu de centaines d'accords fiscaux préalables très avantageux, conclus avec le fixe luxembourgeois par le cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers pour le compte de nombreux clients internationaux. En gros, l'organisation de l'exil fiscal pour plus de 1000 entreprises avec l'approbation de l'administration luxembourgeoise des impôts, dont les multinationales Apple, Amazon, Heinz, Pepsi, Ikea, Deutsche Bank, Disney et j'en passe. Tout ceci à la suite d'une fuite, leaks en anglais, d'un ancien salarié du cabinet de conseil. On a appelé ce scandale financier le Luxembourg Leaks, LuxLeaks. Ce scandale a embarrassé notamment le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ancien premier ministre du Grand-Duché de 1995 à 2013, qui a affirmé le 12 décembre 2014 n'avoir jamais donné d'instruction sur aucun dossier particulier dans ce cadre. En février, rebelote, nouveau scandale, le Swiss Leaks, nouvelle révélation, via le même consortium d'information, d'un système international de fraude fiscale et de blanchiment d'argent mis en place par la banque britannique HSBC à partir de la Suisse. Elle est l'extension de l'affaire des évadés fiscaux relevée dès 2008 par l'informaticien Hervé Falciani, pour lequel il est poursuivi par les autorités suisses pour vol de données. En gros, plus de 100 000 personnes ont profité de ce système pour 180 milliards d'euros. Entre 2006 et 2007, 55,7 milliards d'euros provenant des 9 000 contribuables français. Il s'agit évidemment de personnes fortunées, soumises en principe au taux marginal d'imposition sur le revenu de 45%. Ce sont donc au moins 2,5 milliards d'euros hors pénalité que HSBC a fait perdre au budget de la France sur cette seule période, qui est relativement courte puisqu'il s'agit d'une année. La banque a été mise en examen, au moins en France, en Belgique et en Argentine. Et d'autres pays ont demandé l'aide judiciaire de la France afin de faire avancer ses affaires. Présente dans plus de 80 pays, la banque a déjà été impliquée dans de nombreuses affaires. Tentée dans un premier temps par le plaidé coupable à la française qui lui aurait évité les affres d'un procès public, la banque semble désormais réservée quant à la pertinence d'un tel recours. En effet, elle aurait été dû payer 1,4 milliard d'euros, montant avancé par les autorités françaises. L'affaire devrait partir en correctionnel, devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarches illicites. Donc il en reste 2 mois pour engager ou non cette procédure de plaidé coupable. Alors on attend le résultat des courses avec impatience. En attendant, des mesures concrètes soient mises en place pour interdire les paradis fiscaux, premier pas nécessaire pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent sale.
Alors nous reprenons après cette petite note un peu triste sur ces paradis aux portes de la France, juste à franchir une petite frontière bien mince, où l'on voit des banques encore une fois qui ne respectent aucune des règles auxquelles elles sont censées s'engager, avec même alors peut-être bien des personnes qui sont prêtes à expliquer qu'elles font ça pour le bien de l'économie, hein, toujours, bien sûr. Alors, finalement, pourquoi, après toutes ces crises, après tous ces milliards d'euros dépensés pour sauver les banques, rien n'a changé ?
Alors c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Il y a effectivement, il y a bien sûr la responsabilité des banques qui sont des acteurs majeurs de cette question-là, notamment par exemple sur l'évasion fiscale. Rien ne peut se faire sans la complicité des banques. Donc c'est vrai que on peut que être scandalisé par le comportement notamment d'HSBC qui a été mis en examen là sur démarchage bancaire illicite, mais qui avait déjà été reconnu coupable en 2013 de blanchiment d'argent de la drogue des cartels américains et des cartels mexicains et colombiens et d'organisation en lien avec le terrorisme. Donc c'est vrai que c'est à force d'entendre parler de ces scandales-là, on peut se demander comment elles arrivent encore à, enfin comment les dirigeants bancaires arrivent encore à se regarder dans la glace le matin. Et puis il y a la question de la responsabilité politique, savoir pourquoi les élites politiques, les dirigeants politiques ne font rien. Est-ce qu'ils sont complètement aveugles, est-ce qu'ils sont incompétents face à une finance un peu complexe, ou est-ce qu'ils sont complices? Donc ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a essayé de poser dans le livre pour essayer de trouver des explications. Et puis une des premières explications qu'on peut dire, c'est la puissance du lobby bancaire. C'est un vrai rouleau compresseur, que ce soit au niveau français où on l'a vu ces dernières années, puisque malgré toutes les grandes promesses de François Hollande, il s'est un peu laissé convaincre et au bout d'un moment, on entendait même Pierre Moscovici, ministre des Finances, reprendre les éléments de langage des banques à son compte en disant attention, il faut pas trop séparer les banques, on risquerait de les fragiliser, etc. Les pauvres. Donc ça, c'est le lobby bancaire au niveau français qui est assez puissant. Et au niveau européen, les études qui ont été menées, elles sont assez inquiétante, parce que on s'est rendu compte que le lobby bancaire, il dépensait 120 millions d'euros par an pour justement faire du lobbying, qu'il y avait plus de 1700 lobbyistes à Bruxelles sur les questions financières, et qu'il y avait que 400 fonctionnaires chargés de la régulation financière. Donc du coup, il y a quatre lobbyistes pour un fonctionnaire. À un moment donné, Michel Barnier, qui était le commissaire européen à l'époque, il a dit à ses équipes, ne recevez plus les lobbyistes, il a essayé de fermer la porte justement pour pouvoir travailler un peu tranquille. Mais pour autant, on se rend compte que dans toutes les législations qui sont votées au niveau européen, il y a quand même pas mal d'amendements qui sont dictés directement par les banques. Donc le lobby bancaire, c'est une des explications du fait que ça n'avance pas beaucoup.
Donc, tu as vu la puissance des lobbies d'autres systèmes que peut être l'industrie pharmaceutique ou l'armement. Quand on imagine la puissance financière des banques, on peut imaginer la puissance du lobby correspondant. Mais finalement, quelles seraient les solutions? Même le candidat Hollande, pas le président, mais bien le candidat Hollande, avait fait pas mal de promesses sur les banques. Il y avait des propositions concrètes. Est-ce que certaines seraient finalement encore à appliquer aujourd'hui?
C'est ça qui est un peu triste, c'est que finalement, les solutions, elles existent. Elles ont déjà été évoquées par les uns ou par les autres. Il y a des choses qui sont assez simples quand même. Alors effectivement, c'est jamais simple. C'est pas en claquant des doigts, mais il y a quand même des choses assez simples, des mesures assez simples qui pourraient être mises en place et qui permettraient un changement assez radical des choses. Donc c'est ce qu'on a essayé dans ce livre de pointer un peu tout sur l'ensemble des chantiers qui sont cités, de dire le constat il est un peu effectivement un peu catastrophiste et un peu pessimiste, mais en même temps la volonté de dire sur chacun des thèmes, que ce soit sur le trading haute fréquence, que ce soit sur l'évasion fiscale, que ce soit sur les emprunts toxiques, sur la spéculation sur les matières premières, ou même la spéculation sur les émissions de CO2 ou la biodiversité, puisque maintenant on peut aussi spéculer sur les catastrophe naturelle. Sur l'ensemble de ces chantiers-là, il y a des choses qui sont possibles. Mais un des leviers majeurs aujourd'hui, c'est de rompre le lien qu'il y a entre le secteur de la finance et par exemple la haute administration ou le monde politique. Et ça, pour nous, c'est un des préalables. Si on veut que des mesures justement soient votées et qu'il y ait des changements qui s'opèrent, il va falloir qu'à un moment donné on ne retrouve pas par exemple les gens qui vont travailler à Bercy au ministère des Finances, qui sont par exemple des énarques et des inspecteurs des finances, à 35 ou 40 ans aujourd'hui, ils entendent l'appel de la finance et puis ils partent travailler dans les banques où ils arrivent à multiplier leur salaire par 10 ou par 20. Et donc du coup, ils commencent leur carrière à 25 ans ou à 30 ans et puis ils intériorisent complètement le fait que dans 10 ans, dans 30 ans, ils iront travailler dans des banques. Ça, c'est le phénomène de pantouflage qui est un des phénomènes importants au niveau français et qu'on a essayé de pointer et de montrer un peu l'influence qu'il pouvait y avoir aujourd'hui de ce pantouflage.
Heureusement, on a eu Pompidou et on a Macron qui ont fait l'inverse.
Voilà, c'est ça. C'est le système des revolving doors, c'est-à-dire ça va dans les deux sens. Et ça, c'est vrai que c'est assez marquant. Alors, il y a des parcours qui sont absolument incroyables. Enfin, effectivement, on parle de Macron qui est passé par la banque Rothschild, qui se retrouve ministre des Finances, mais aussi Jean-Pierre Jouyet qui a été secrétaire d'État du gouvernement Fillon, qui est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, qui a lui travaillé aussi comme directeur du Trésor au ministère des Finances, et puis s'est retrouvé aussi dirigeant de la banque Barclays. et après directement il est passé président de l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire le gendarme de la bourse. Donc tout ce mélange là, ça fait un peu une espèce de soupe où on se dit comment il arrive à faire la part des choses, comment il n'y a pas de conflit d'intérêt derrière tout ça. Et le dernier exemple en date, c'est François Pérol, qui est aussi un inspecteur des finances, qui a travaillé à la Banque Rothschild, qui a été secrétaire général adjoint de l'Élysée au moment de la présidence de Sarkozy. Il a traité des questions de fusion de la Banque Populaire avec la Caisse d'Épargne. Et puis, en 2009, une fois que ce mastodonte bancaire BPCE a été créé, Sarkozy a demandé que la direction de cette banque-là elle soit confiée à François Pérol. Donc voilà, c'est un petit peu encore un conflit d'intérêts de plus. Et il y a eu des plaintes, notamment de l'association Anticor, de certains syndicats. Et aujourd'hui, François Pérol est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Donc voilà, il y a quand même des choses qui avancent et on se dit que c'est pas complètement dans l'impunité que ces gens-là peuvent agir. Mais c'est vrai que c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui. Ces allers-retours, ils sont quand même assez flagrants. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, notamment au niveau européen, par exemple, que Gerhard Schröder est devenu conseiller de la banque Rothschild, que Tony Blair est devenu conseiller de la banque JP Morgan comme Kofi Annan, ou que Luc Frieden, qui a été ministre du Luxembourg, pendant 15 ans, ministre des Finances, il est devenu vice-président de la Deutsche Bank quelques mois plus tard. Donc ça, c'est quand même des signes qui montrent que cette consanguinité-là entre le secteur de la finance et les dirigeants politiques et la haute administration, c'est quand même quelque chose, c'est un lien qu'il faut absolument rompre si on veut qu'il se passe des choses et qu'on arrive à reprendre un peu les choses en main et à reprendre un peu... Remettre à sa place la finance dérégulée et le secteur bancaire qui multiplie un petit peu les abus.
Alors on aurait une envie classique d'essayer de faire autrement, c'est-à-dire d'essayer de trouver d'autres systèmes pour pouvoir au quotidien vivre sa vie de citoyen sans ces grands messieurs ou grandes dames de la finance et du pouvoir économique. Alors est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'il existe des banques alternatives?
Alors il y a des banques éthiques qui existent en France, notamment il y a le Crédit Coopératif, il y a la Nef, qui sont des banques coopératives. Alors après le problème aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas une autonomie propre, c'est-à-dire Crédit Coopératif, c'est une filiale justement de la grande banque BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. La Nef a une existence un peu plus autonome, mais elle a encore des liens financiers avec également BPCE. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour une banque d'être complètement autonome et complètement ne pas être lié avec ces mastodontes bancaires. Il y a la Banque Postale qui est quand même une banque de proximité et qui, je pense, spécule beaucoup moins que d'autres sur les marchés financiers. Alors après, effectivement, en tant qu'individu, on peut se dire, on va dans ces banques un peu plus éthiques, un peu plus alternatives, mais il faut pas lâcher l'affaire quand même, quoi. C'est pas parce qu'on va, nous, en tant que citoyens, en tant que contribuables, aller dans des banques un peu différentes qu'il faut pour autant renoncer à réformer ce système bancaire-là, parce qu'effectivement, il y a des conséquences. Effectivement, c'est bien de se dire que déjà notre argent va pas servir à aller spéculer sur la fin dans le monde. Déjà, c'est un minimum. Mais c'est vrai que si on veut pas qu'il y ait, il y a plein d'autres abus et scandales. Et c'est vrai qu'il faut aussi agir en tant que citoyen pour changer ces grandes banques françaises qui n'ont plus trop de limites aujourd'hui et qui sont un problème majeur. Voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, que ce soit la crise écologique, la crise économique, la crise sociale, qui sont liées aussi au fait que la finance n'est pas suffisamment régulée avec tous les abus qu'on connaît aujourd'hui.
Eh bien, merci. Donc, nous venons de parler du livre noir des banques aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est un livre commun avec Attaque et Basta. Et évidemment, il contient tout ce qu'on n'a pas pu le temps de dire pendant cette interview et de nombreux documents parfois édifiants sur le fonctionnement de tout ce système. Un autre système qui est en train de se mettre en place, c'est la prochaine loi sur la santé. Et Gaël nous a épluché le texte de loi virgule par virgule.
Voilà. Alors ce projet, en fait, il a été présenté depuis l'automne et suite à une contestation des médecins dont vous avez entendu parler, son examen a été reporté à mars 2015. Il est actuellement examiné par la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée Nationale. De ce projet, on n'a retenu que l'article sur la généralisation du tiers payant qui était contesté par les médecins. Et encore une fois, les médias ont mal fait leur boulot puisque ce projet, c'est bien plus que ça. Alors la dernière fois, j'avais annoncé qu'il y aurait du Macron dans le projet de loi sur la santé. Bon, finalement, le projet est plus social que libéral et c'est assez rare en ce moment pour le souligner. La partie libérale, c'est un détail du projet, mais comme chacun sait, le diable se cache dans les détails. Par exemple, aujourd'hui, il existe des missions de service public qui sont confiées aux cliniques. Et le projet prévoit de les remplacer par un système de reconnaissance globale comme... qui consisterait à reconnaître les cliniques comme participant au service public hospitalier. Et ça, ça risque d'étendre la place des cliniques. D'autre part, le projet prévoit d'obliger les hôpitaux à se regrouper dans des groupements hospitaliers de territoire, c'est-à-dire des regroupements d'hôpitaux publics qui se partageraient l'offre de soins sur un territoire donné. Et ça, ça présente des menaces sur les soins de proximité, surtout si le territoire en question est grand. Autre menace, c'est qu'il y aurait la possibilité d'associer à ces groupements hospitaliers des cliniques privées, et donc on risque d'avoir un mélange public-privé. Par exemple, si une clinique membre du groupement hospitalier propose les mêmes services que des hôpitaux publics, eh bien on risque de fermer des services d'hôpitaux publics au prétexte de rationalisation des soins. Alors pour le reste, le projet affiche de grandes ambitions sociales, mais à moyen constant. Et donc on a un grand paquet de mesures qui vont plus haut dans le bon sens, mais dont certaines risquent de rester des vœux pieux. Alors parmi les mesures concrètes, certaines ciblent les publics les plus vulnérables, à commencer par les pauvres, avec, je l'ai dit, la généralisation du tiers payant pour les consultations de ville, et un encadrement des prestations d'optique et de soins dentaires, qui sont les plus chères, pour les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, c'est-à-dire le niveau juste au-dessus de la complémentaire CMU. Deuxième public visé, les jeunes, avec par exemple un accès facilité à la contraception via les infirmeries scolaires, une éducation à la santé par l'école, et une information nutritionnelle synthétique, simple et accessible par tous, je cite le texte, c'est-à-dire sur la face avant des produits. En d'autres termes, quand vous achetez du Nutella pour vos enfants, au lieu d'avoir à chercher en tout petit à l'arrière du paquet, enfin de la boîte, qu'il y a de l'huile de palme et que c'est mauvais, ce serait écrit en gros devant qu'il y a de l'huile de palme et que c'est mauvais. Un autre point sur les enfants, c'est que beaucoup d'enfants de milieu modeste n'ont pas de suivi et de coordination des soins. Donc le projet prévoit d'étendre aux enfants le parcours de soins coordonnés de manière à renforcer le suivi médical autour d'un médecin traitant. Certaines mesures sont concrètes mais semblent réparer le système avec des rustines. Par exemple, on a aujourd'hui une pénurie de médecins du travail. Et depuis quelques années, ces médecins du travail peuvent être assistés par de simples médecins généralistes qu'on appelle les médecins collaborateurs. Et le projet prévoit... non, pas des médecins collaborateurs, des médecins collaborateurs. Le projet prévoit d'étendre cette rustine puisque les médecins collaborateurs pourraient remplir des fonctions de médecins du travail sous l'autorité d'un médecin du travail tuteur. Et d'autres professions médicales auraient aussi leurs compétences élargies et pourraient jouer aux médecins au rabais, puisque par exemple les pharmaciens et les sages-femmes pourraient faire des vaccins. Et puis on créerait des super infirmiers qui auraient une formation intermédiaire entre le bac plus 3 plus 4 des paramédicaux et le bac plus 8 des médecins, et qui auraient des missions intermédiaires entre celles des infirmiers et celles des médecins. On risque donc de pallier la pénurie de médecins par encore des rustines. Une des ambitions du projet, c'est de s'attaquer à un des handicaps de notre système, qui est la multiplicité des acteurs, le manque de coordination, le manque des suivis de patients. Alors là-dessus, les mesures restent assez vagues. On a par exemple une nouvelle version du dossier médical partagé, qui est censé favoriser la circulation d'informations entre les professionnels. Et bon, ça fait des années que ce dossier s'enlise. Je ne sais pas si on réussira à faire mieux. Alors, est-ce qu'on va réussir à coordonner vraiment les acteurs de santé? Une chose est sûre, c'est que le risque de cette volonté de coordination, c'est surtout la poursuite d'un pilotage bureaucratique par l'État et par les agences régionales de santé, loin de la démocratie sanitaire que le projet prétend promouvoir. Finalement, ce projet a de grandes ambitions, mais si on persiste à contracter les budgets sociaux, son effet risque de se limiter à quelques mesurettes, tandis que la casse du système de santé solidaire se poursuivra.
Très bien, et pour continuer à militer, l'agenda à toute vitesse, Boris.
À toute vitesse, alors on commence demain après-midi en écho anticipé de Blocupi à Francfort, qui sera expliqué après. Le collectif pour un audit citoyen de la dette publique organise partout en France Blocupi, Banque de France. Demain, c'est à Bastille à 12h.
The Brussels Business, projection débat organisée par Attaque Paris 1920, un documentaire de Friedrich Moser et Mathieu Litter. Donc dimanche 15 mars de 16h à 19h, café Le Lieu dit, 6 rue Sorbier, 20e.
Autre film, L'Adieu au Steak, un film de Jutta Pritzer, Allemagne, de 2012, projection suivie par un débat avec Gilles Lemaire, mardi 17 mars à 19h30 à la Maison des Métallos, dans Paris 11e.
Et une grosse mobilisation européenne qui est prévue le mercredi 18 mars à Francfort autour de la Banque Centrale Européenne qui inaugure son nouveau siège qui a coûté 1,3 milliard d'euros et qui sont le symbole du gouffre qui sépare les élites financières et les politiques des populations. Et donc c'est l'action Blockupy contre la Banque Centrale Européenne. Et il y a des transports collectifs qui sont organisés par plusieurs villes et il y a des infos sur le site d'Attaque.
Un café diplo, la Grèce face à la dette et à l'Europe, avec Serge Halimi et Renaud Lambert du Monde Diplomatique, mercredi 18 mars à 19h, bar-restaurant Le Lieu dit, 6 rue Sorbier, Paris 20e.
Alors, du temps acheté, la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, avec Wolfgang Strick, Institut Max Planck de Cologne, présentera en anglais son dernier ouvrage. Donc jeudi 19 mars, de 19h à 20h, Amphithéâtre François Furet, à l'EHESS 105 boulevard Raspail, Paris 6e.
Partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Une discussion organisée par Attaque 14e, jeudi 19 mars de 19h à 21h, Café d'Enfer, 58 boulevard Saint-Jacques, Paris 14e.
Ensemble contre tous les racismes et fascismes, l'égalité ou rien, rassemblement dans le cadre de la journée internationale contre le racisme, samedi 21 mars à 15h, métro Barbès.
Et le 24 mars commence le Forum Social Mondial 2015 à Tunis. Il se tiendra du 24 au 28 sur le campus universitaire de Tunis. Et il y a plus d'infos sur le site fsm2015.org.
Mardi 7 avril, réunion publique Stop TAFTA avec Frédéric Vial de la commission Europe d'Attaque. C'est à 20h30, salle SRV, 24 avenue Paul Raoult, au Mureau, dans le 78.
Et ce qui termine notre émission, nous recevions Agnès Rousseau du journal Basta pour le livre noir des banques, livre Attaque et Basta. Et nous remercions Jean-Marc, Boris, Gaël et Claude à la technique. Et nous finissons une émission sur l'argent, évidemment, par Monnaie des Pink Floyd.